à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Eau de Radio, le 91.3 FM, et vous écoutez Bail de Jeunes, l'émission sur les initiatives portées par et pour les jeunes de la métropole bordelaise et de la rive droite. Je m'appelle Garance, et aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Aurèle.
Bonjour à toutes et à tous.
Donc on travaille tous les deux à Eau de Radio, moi en tant que service civique et lui en tant que stagiaire, et on va vous présenter deux reportages aujourd'hui. Le premier reportage, il a été réalisé il y a quelques semaines. Alors, on n'a pas eu le temps de le diffuser avant, donc on le fait maintenant. Et en fait, c'est une interview que j'ai réalisée en décembre à l'ECV. Si vous ne connaissez pas, c'est une école centrée sur le digital. Et je suis allée à la rencontre de trois de leurs étudiants qui m'ont parlé du rapport à leurs études, au climat, et aussi de l'hackathon ou du hackathon. C'est un événement annuel qui consiste à créer des initiatives digitales. Et l'année dernière, il était centré sur le climat et la biodiversité. Alors, quand l'interview a eu lieu, il y avait un petit contexte parce qu'on était entre la COP 27 et la COP 15, donc deux événements mondiaux autour du climat, pour que vous ayez un peu le contexte. Ensuite, il y aura un deuxième reportage et entre les deux, il y aura quelques pauses musicales. Je crois que j'ai tout dit, donc je vous laisse avec la première interview. Bonne écoute.
Je m'appelle Thélise, je suis en Master 1 Direction Artistique à l'ECV.
Je m'appelle Erwan, je suis en Master 2 à l'ECV dans ce qu'on appelle UX Design, donc c'est tout ce qui est expérience utilisateur et ergonomie des applications.
Pauline, donc je suis en Bachelor 3 à l'ECV.
Alors, on parle de notre génération comme celle qui connaîtra tous les désastres climatiques, on dit qu'on est assez éco-anxieux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes préoccupée par le climat?
Moi je sais que oui, je suis très préoccupée par le climat, j'ai peut-être tendance à être un peu pessimiste. Mais je sais qu'on va se confronter à des trucs qui vont être durs, on va devoir s'adapter. Et je pense que les gens sont encore un peu dans le déni. Par exemple, là, on a eu un été horrible et les gens sont un peu en mode « Ok, bah, c'est cet été, mais l'été prochain, ça ira, ce sera pas comme ça. » Alors que si, et en même temps, il y a quand même des actions qui sont menées, mais c'est un peu lent, je trouve, face à l'ampleur de ce qui se passe.
Moi, je dirais que je suis éco-anxieux aussi. Je me pose plein de questions, du coup, sur mon futur. Par exemple, je me suis toujours imaginé avoir des enfants, et là, avec ce qui se profile, quand on nous parle d'horizon 2050, mais même maintenant c'est devenu 2030, enfin, ça devient de plus en plus proche, c'est vrai qu'en fait il y a trop de questions qui se posent, même travailler dans le digital, on sait que ça pollue par exemple, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire? Je sais que j'ai plus confiance aux politiques, j'ai l'impression qu'on fonce tout droit dans le mur. J'ai pas vraiment cet optimisme, je me dis pas bon, on va s'adapter, en fait soit on agit, soit vraiment c'est terminé.
Moi j'ai des phases où je suis très anxieuse par rapport à ça, j'ai des phases où quand je suis dans cette anxiété, je me mets à faire des trucs super éco-friendly, je deviens végétarienne, j'utilise plus du tout de plastique, je fais attention à tout ce que j'achète, et ça s'accumule sur moi, et il y a un moment où je peux plus, donc pendant quelques mois j'arrête de tout faire, et après l'anxiété revient, en fait j'ai des hauts, des bas comme ça, et pareil, je vois que personne fait d'efforts autour de moi, donc forcément ça... C'est dur de faire des efforts quand personne n'en fait autour de moi.
C'est vrai que t'as l'impression que tu fais jamais assez. T'as ce truc où faut que tu fasses toujours le petit geste en plus. Mmh. Alors qu'au final, on sait que c'est quand même vachement les entreprises et tout qui ont un rôle à jouer. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que ouais, genre quand t'es écolo ou que tu te considères écolo, tu fais plein de trucs et au bout d'un mois, en fait, c'est une charge.
Ouais.
Qui est dur à porter et il y en a certains qui abandonnent tout.
Est-ce qu'à votre échelle à la maison, vous appliquez des petits gestes écolos?
J'achète de seconde main, mais aussi tout ce que j'achète, je le porte très longtemps. J'achète très peu en général. Par exemple, ce pull, je l'ai depuis presque 10 ans. Ce pantalon, on me l'a donné. C'est tout des trucs que je recycle.
Les premiers trucs que j'ai visés, c'était le zéro déchet et dans ce que quand je m'alimente. Donc ça veut dire que j'ai un compost. Mais avant ça déjà, dès que j'épluche des légumes, c'est bête, mais genre je mets tout dans un sachet et à la fin je fais un bouillon. Ce qui fait qu'au moins je sais que je les ai utilisés, voilà. Vêtements, j'essaye de faire de la seconde main, mais moi j'ai encore un peu de mal, j'avoue. J'ai eu le truc où j'allais avec ma famille faire le tour des boutiques. J'essaye en friperie et tout, mais voilà, c'est encore un truc où je sais qu'il faut que je travaille. Depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'amène même plus ma voiture. C'est entièrement transport en commun, voire à pied si je peux.
Niveau alimentation, je vis encore chez mes parents, donc c'est compliqué d'imposer son alimentation. Mais on en discute à la maison, même si des fois ça fait un peu débat et ça clash. Tout ce qui est gaspillage alimentaire, vraiment, on ne gaspille jamais. Je fais super gaffe à la surconsommation. Avant de faire un achat, je me demande toujours, ok, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Je m'autorise bien évidemment des petits achats à plaisir, parce qu'il en faut. mais pas tout le temps. Juste, je me demande si vraiment c'est utile. Est-ce que c'est pas juste que c'est une folie que j'ai d'un coup? J'ai pas encore sauté le pas, mais je réfléchis de plus en plus à changer de banque. C'est un truc qu'on sait pas forcément, mais les banques ça pollue énormément parce que ça entretient tout ce qui est énergie fossile, tout ça. Et je sais qu'il y a des calculateurs pour savoir combien notre argent impacte, on va dire. Et il y a des banques comme ça, plus transparentes, plus vertes, qui commencent à sortir.
Moi, je trouve qu'il y a un vrai fossé générationnel.
Nous, ça nous touche plus parce que voilà, on se pose des questions sur notre futur même. Des fois, je me dis, mais est-ce que je vais vivre jusqu'à 50 ans? Est-ce que le monde sera encore vivable quand j'aurai 50 ans? Alors que nos parents, ben, ils ont déjà passé cet âge-là, ils ont un certain confort. Et tous les débats qu'on commence à parler d'environnement et de changement d'habitude, c'est les gens qui sont opposés, c'est parce que ça va changer leur habitude et ils vont avoir un inconfort et ils veulent pas être confrontés à ça, mais malheureusement, à un moment donné, ils vont pas avoir le choix.
Alors, depuis quelques mois, on voit que certains étudiants abandonnent complètement leurs études parce qu'ils considèrent que leur cursus et que les voies qu'ils vont emprunter après sont assez polluantes. Il y a par exemple les étudiants de l'école AgroParisTech qui l'ont annoncé pendant la remise de leur diplôme l'année dernière. Quel est le rapport que vous entretenez, vous, avec vos études et votre avenir, étant donné que le digital, vous l'avez dit tout à l'heure, est d'un domaine assez polluant?
Je veux avoir quand même mon diplôme pour avoir la sécurité du diplôme, mais c'est vrai qu'à terme, je pense pas faire ça toute ma vie, enfin... Qu'est-ce que le digital va devenir quand toute la planète va dérailler? Je suis pas sûre que ça serve encore. On le fait parce que voilà, on est encore dans le schéma de il faut des études, il faut un diplôme, il faut une sortie. Mais au-delà de ce schéma-là, beaucoup d'insécurité à se dire est-ce que vraiment à terme on va bosser et c'est compliqué.
Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Parce que mine de rien, même si je travaille avec des agences qui peuvent être éthiques, parce que c'est vrai que dans notre métier on peut choisir avec qui on travaille, etc., surtout qu'on est sur des profils qui sont assez recherchés. Donc c'est vrai que moi je me demande, est-ce que je participe pas à cause de mon métier à foncer droit dans le mur, quoi. Je me suis demandé si je n'allais pas me reconvertir dans un truc un peu plus proche soit de la terre ou bien qui nourrit les gens.
J'ai pas tout à fait le même point de vue, déjà parce que je suis en direction artistique. Déjà c'est un job qu'on peut faire dans beaucoup d'entreprises différentes. Donc après, ce sera à moi de choisir mon entreprise. Pour l'instant, je suis pas du tout là-dedans. Mais je suis déjà sur beaucoup de groupes Facebook, par exemple, qui s'appellent Job dans l'écologie ou ce genre de choses. Et pour moi, je peux très bien transmettre mes valeurs à travers mon travail. J'ai mis beaucoup de temps à choisir dans quelle voie je voulais me tourner. Et toute cette voie du digital, de la direction artistique, c'est une voie dans laquelle je voyais de l'avenir tant sur le plan emploi, employabilité, mais aussi sur le plan... avoir mes propres valeurs dans ce que je fais.
Est-ce que vous avez des cours, animations, conférences, que sais-je, à l'école qui prennent en compte le climat, qui vous en parlent?
Cette année, j'en ai eu deux. Alors, j'ai eu un cours d'éco-conception. Donc, comment, dans le digital, on pouvait faire en sorte de créer des services et des applications qui aient un impact moindre sur la planète. Donc, on a eu un cours comme ça et on a eu, il me semble, une conférence sur ce qu'on appelle le Green IT. Donc en gros, c'est la technologie verte, quoi. De créer et penser du coup une technologie qui soit plus durable, plus éthique.
Dans chaque cours, on a toujours une petite pensée là-dessus. Nos projets, ils ont tous une petite partie d'éco-responsabilité dedans.
Est-ce que vous vous engagez de manière un peu plus militante pour le climat?
Moi, c'est plus un truc de légitimité, en fait. Je sais que ça va mal, je connais des chiffres, je connais des voyages, je sais que je peux faire quelque chose de mon côté, mais être militant, je trouve que ça devient beaucoup plus politique et que du coup, il y a vraiment besoin d'avoir une éducation qui est solide derrière, et moi, j'ai pas l'impression de l'avoir actuellement.
Bon, pour être honnête, ça m'a jamais tenté. Je préfère faire mes petites actions moi-même, montrer l'exemple de mon côté.
Le terme militant relié à l'environnement, l'écologie, maintenant, c'est assez mal vu, parce que sur tout ce qui est radio, télé, on montre souvent des personnes un peu extrêmes. Et forcément, les gens se disent « Ok, ils sont tous comme ça, c'est tous des hystériques. » Donc le mot militant, je trouve que maintenant, il est malheureusement mal connoté. Pareil, récemment, il y avait eu une action, je crois, au Louvre, un tableau qui avait été... On avait mis de la sauce tomate dessus. Et il y a plein de gens qui s'étaient offusqués. Enfin, moi, je sais que mes parents, ils étaient en mode « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je trouve que voilà, c'est des actions qu'on montre, mais c'est pas les bonnes qu'on montre, en fait. C'est des actions qu'on monte parce qu'on veut faire du buzz, de la polémique, et c'est malheureusement, je trouve, ridicule et ça fait pas avancer les choses. Donc faudrait montrer des vraies actions concrètes et vraiment utiles plutôt que chercher à faire parler tout simplement.
De plus en plus, il n'y a plus moyen de faire un débat qui est sain. Il y a ceux qui sont arrêtés sur leurs idées des deux côtés et chacun en prêche un peu sa paroisse et on se retrouve à être sur un status quo, en fait, un truc vraiment voilà, il n'y a plus d'efforts des deux côtés. Après, enfin, je comprends votre avis sur les militants qui sont vus comme extrêmes, mais en vrai, quand on regarde, à l'époque, les suffragettes et tout, c'était vu comme des mouvements qui étaient extrêmes, et c'est elles qui ont apporté les changements. Et moi, j'ai tendance à croire qu'il ne peut pas avoir de changement sans derrière avoir des idées qui soient radicales.
Est-ce que vous avez un peu suivi la COP27 ?
J'ai pas suivi parce que surtout, et je pense de manière générale, les gens ont plus confiance dans les politiques et ils préfèrent s'impliquer eux-mêmes plutôt qu'attendre. Et le seul truc, je crois, que j'ai retenu, c'est qu'il y a juste un fonds d'investissement qui va être mis en place. Et tout ça, pour ça, malheureusement, enfin, ça avance pas au final. Ça avance toujours pas. Enfin, l'urgence, elle arrive de plus en plus vite. Et voilà, enfin, c'est un peu désespérant de voir que, ok, on se réunit toutes les X années pour rien dire. On fait déplacer je sais pas combien de personnes dans des jets privés pour au final ne rien dire, juste dire ok, on va protéger ces gens en mettant encore de l'argent en jeu, alors que l'argent, non, au bout d'un moment, c'est un système qui va plus durer. Donc bah, j'ai pas suivi.
J'ai l'impression qu'à chaque fois la COP27, c'est du greenwashing politique, en fait. Clairement, c'est les grands états qui se rassemblent, qui se font une petite tape sur la main en mode bon, bah, faudrait peut-être arrêter les bêtises, quoi. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Il y a juste des débats stériles sur si on utilise des usines à charbon ou nucléaire en France, quoi. Et c'est tout. J'ai pas l'impression que ça aille plus loin. Il n'y a pas de changement systémique, il n'y a pas de loi spéciale. Quand on a des gens qui appartiennent aux Verts ou dans les partis écologistes qui arrivent au gouvernement, bah, ils démissionnent au bout de 3 mois. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'action politique, et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est partagé par ma génération. C'est vrai que on n'a plus l'impression que les politiques font quelque chose, quoi.
Beaucoup de personnes se disent, enfin dans les rapports, trucs comme ça, on entend dire que la planète va se réchauffer de 1,5-3 degrés, et il y en a beaucoup qui se disent oh, c'est pas grand chose, voilà, entre 25 et 28, bon, on survit. Mais si on prend le corps humain, on est en moyenne, je crois, à 37 degrés. Et vous rajoutez 3 degrés, vous avez 42 fièvres, vous êtes mort, enfin vous êtes hyper mal, et pour la planète c'est pareil.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le hackathon, donc ce challenge qui est tourné cette année autour de la biodiversité et du climat, et est-ce que vous pouvez détailler les projets que vous avez effectués dans ce cadre ?
Le hackathon, c'est genre une contraction de hack, donc trouver un hack, c'est trouver une solution un peu détournée, voilà, contourner un problème, voilà. Et marathon, du coup, puisque c'est une semaine, normalement c'est censé être bien bien intense. Ouais. Chaque année, depuis notre troisième année à ECV, on a un hackathon, du coup, qui est une sorte de compétition qui dure une semaine. Le premier jour, on reçoit un brief. Ensuite, pendant 3 jours, on fait le projet, 3 à 4 jours selon le hackathon, ça change. Et le dernier jour, on fait les rendus et on nous donne des prix. Et cette année, c'était un peu différent, parce que du coup, c'était un hackathon qui était inter-école.
Moi, dans mon groupe, on a créé un projet qui s'appelle Yummy, qui avait pour but de recenser tous les restaurants, épiceries, cafés sur Bordeaux qui avaient une démarche éco-responsable. Et le but était d'amener l'utilisateur à lui aussi avoir une démarche éco-responsable.
Nous, on est parti en fait sur un restaurant où l'idée c'était que la transparence elle soit au centre du restaurant. Donc c'était proposé forcément local avec des agriculteurs qui étaient partenaires, que en fait le service soit le plus pédagogique possible. C'est-à-dire que la personne mangeait, mais avant ça, on lui expliquait pourquoi les choix du paysan avaient impacté le goût de ce qu'il faisait manger, mais aussi son impact sur la planète. Et en fait, l'idée, c'était de faire avant le restaurant avec des partenariats, pendant le restaurant avec, du coup, en apprenant aux gens, et après le restaurant, du coup, en leur offrant des solutions avec des recettes de saison, et en allant dans les écoles aussi, du coup, en apprenant aux enfants, puisque la partie éducation et goût se fait du coup à cet âge.
Et moi, c'était aussi un projet sur l'alimentation. Nous, c'était une application qui s'appelle VegGo, qui a pour but d'accompagner les gens dans leur transition alimentaire pour devenir végétarien, vegan ou flexitarien. Parce que souvent, les personnes veulent se lancer dans cette transition, mais ils savent pas vraiment comment faire. C'est dur de varier les repas tout en n'ayant pas de carence. Donc le but de l'application, c'était de proposer justement des semaines de repas en s'assurant qu'il y avait tous les apports, tout ça. Et c'était vraiment une application d'accompagnement. Le but, c'était pas de culpabiliser les gens On voulait faire ça sous forme de défi. Par exemple, bravo, vous avez passé une semaine à manger végétarien. Et on voulait aussi incorporer un aspect communautaire où les gens pouvaient partager des recettes, échanger entre eux, ce genre de choses.
Voilà, donc merci beaucoup aux étudiants de l'ECV qui m'ont accueilli et d'ailleurs à l'école aussi. Maintenant, on va marquer une petite pause musicale. Alors, je sais que dans les épisodes d'avant, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un rapport entre les musiques et les sujets. Là, je me suis dit, c'est le début d'année, c'est la fête. Du coup, je vais mettre une chanson que j'aime bien. Et ça s'appelle Pink Plus White de Frank Ocean. Donc, je vous laisse écouter cette petite chanson. Yeah, yeah.
The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed me. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. All in shit. Say what up to Reddy. The shoe. Say what up to Penny. Say what up to Life. I'm a challenger. Building up my bikes, running up. I'm from B-18. Still in Granny 6.
Take it easy.
Give me something sweet. Bitch, I might like immortality. This is life, life, immortality.
Vous êtes toujours sur Eau de Radio, le 91.3 FM, pardon, j'en bafouille, et vous écoutez toujours Bail de Jeunes. Et maintenant, je vais laisser Aurèle vous présenter un nouveau reportage.
Oui, donc le 9 décembre avait eu lieu une manifestation sur l'esplanade Bordeaux-Montaigne, menée par des étudiants, professeurs et syndicats contre des violences de l'extrême droite à la fac de Bordeaux-Montaigne à Pessac. Beaucoup d'étudiants dénoncent une montée de l'extrême droite à Bordeaux, notamment à la faculté. Les voix off du reportage ont été réalisées par les stagiaires de 3e au mois de décembre.
Nous sommes aujourd'hui sur le parvis de la fac Montaigne-Montesquieu. C'est ici que étudiants et militants se sont rassemblés pour protester contre le fascisme.
En effet, le mercredi 7 décembre, les députés insoumis Louis Bouillard et Carlos Bilongo effectuaient la dernière date de leur tournée des facs sur le campus de Pessac. Mais un groupuscule fasciste a tenté d'interrompre la conférence des députés.
En signe de protestation, un rassemblement a été organisé sur le campus. Nous avons demandé ce que pensaient les professeurs et les militants présents.
Je suis Marie Duré-Pujol, je suis maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne et secrétaire de la section SNESUP-FSU de l'Université Bordeaux-Montaigne.
je m'appelle Michel, je suis membre de la France Insoumise.
Les deux députés de la France Insoumise, messieurs Bilongo et Boyard, étaient invités dans le cadre d'une conférence. Donc une conférence qui était organisée par les jeunes insoumis, qui était déclarée tout à fait légalement. Et un groupe de jeunes habillés de noir avec des barres sont venus et ont essayé de rentrer de force au sein de l'amphithéâtre pour perturber, même arrêter la conférence. Fort heureusement, il y avait un service d'ordre qui était au rez-de-chaussée, en bas, et qui a pu repousser.
C'est manifestement le retour d'une période qu'on a pu connaître dans les années 70, quand les groupuscules nazis essayaient de s'implanter dans la fac. Alors, ils étaient surtout à la fac de droit, pas à la fac de lettres, mais c'est encore une tentative de pénétrer sur l'université et de s'implanter, je pense, sur ce secteur.
Cet événement, il est extrêmement grave à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il est inadmissible qu'un groupe se permette de venir arrêter la conférence de deux députés. Parce que si dans une université en France aujourd'hui il est plus possible de défendre la liberté de parole, la liberté académique, le fait d'accueillir des représentants de la République, dans ce cas-là on se demande où est-ce qu'il sera possible de le faire. Et puis surtout on voit qu'il y a une forme d'impunité qui se met en place, puisqu'il y a de plus en plus d'actes racistes et d'actes de violence qui sont commis par l'extrême droite. Et pour ne prendre que des exemples récents et locaux, les locaux de la CGT à Mérignac ont été tagués il y a peu, de même que les locaux de l'association Asti à Bordeaux. Et là encore, personne n'est inquiété. Mercredi soir, la police est intervenue, est venue disperser le groupe qui était venu perturber la conférence. Et il n'y a pas eu d'arrestation, l'identité n'a pas été vérifiée. Donc vraiment, tout ceci, ça crée de l'impunité, puisque à partir de là, qu'est-ce qui empêcherait que ce type d'acte violent recommence ?
Je suis persuadé qu'il faudra faire plus, quoi. Il faudra rassembler, faire en sorte que tous ceux qui aspirent à un meilleur monde et à une meilleure société se mobilisent sur des choses comme ça. N'empêche qu'on n'est pas assez nombreux, quoi. Il faudra qu'on continue.
C'est un premier élément de réponse, puisque suite à l'arrivée de ce groupe violent, je tiens quand même à préciser qu'il y a eu 3 blessés parmi les militants du service d'ordre, les militants de la France Insoumise. Donc c'est aussi pour dire que ce n'est pas anodin ce qui s'est produit. Donc il y avait déjà eu aussitôt des communiqués de presse qui étaient partis de la part des députés Bilongo et puis Boyard, et puis de la France Insoumise Gironde. Et tout de suite, ça s'est élargi à différents syndicats de jeunes, à d'autres syndicats plus généraux comme la FSU. Et voilà, ce rassemblement, il y a vraiment lieu aujourd'hui pour rappeler toujours que nous ne baisserons jamais les yeux devant l'extrême droite, devant toutes les formes de violence, toutes les formes de racisme. Le GUD n'existe plus dans les universités. Il n'y a aucune raison que tout ceci recommence, parce que pour nos plus anciens qui ont l'histoire en tête, là, tout ce qui se passe en ce moment avec la légitimation des propos, des discours, des actes racistes et violents par le gouvernement, par une partie des journalistes, ben, tout ceci, ça a des conséquences dans nos quotidiens. Et là, typiquement, c'est bien une démonstration d'une manière de rendre légitime le fait d'interrompre une conférence de députés, de taguer des locaux, etc.
Les étudiants ont également répondu à notre micro pour témoigner de leur inquiétude et de leur désarroi.
Je m'appelle Alan, je suis étudiant en sciences politiques, militant en France Insoumise et syndiqué à l'UNEF.
On est étudiante à Sciences Po Bordeaux. Ça fait 3 ans qu'on étudie là et ça fait 1 an là que ça se renforce et qu'on commence à voir un maximum de présence de fascistes dans le campus, que ce soit par des tags dont j'ai même pas envie de citer sans vomir les propos, ou que ce soit par des stickers et des interventions comme celle de mercredi. Et ça, c'est un des premiers événements violent et ciblé sur le campus, mais ça veut juste dire que c'est que le début et concrètement, ça nous fait peur, quoi.
Là, l'objectif aujourd'hui, c'était de se rassembler pour dire non au fascisme, non à l'extrême droite et non à la violence dans nos facs, parce que le problème, c'est que c'est globalisé aujourd'hui. L'extrême droite se croit tout permis, notamment dû au fait qu'il y a 89 députés de la Rassemblement National qui ont été élus. Et donc les groupuscules d'ultra-droite armés commencent à investir nos lieux d'études. Il y a 2 jours, en même temps que l'attaque de cette conférence à Bordeaux, 3 militants insoumis ont été attaqués à Montpellier. L'objectif là, c'est de se rassembler ensemble avec des syndicats, des organisations politiques, des mouvements, des associations, pour dire non au fascisme et se réunir et dire à la jeunesse aussi mobilisez-vous, intervenons, reprenons possession de nos facs, justement pour lutter contre cette montée de l'extrême droite et du fascisme qui est intolérable dans un moment sociétal très compliqué, notamment avec la précarité des jeunes, avec la casse des services publics et notamment de l'université, et de mener front commun face à la violence d'extrême droite et face au fascisme.
Bah, je trouve que c'est cool qu'il y ait eu un truc qui soit fait aussi rapidement. En plus, il y a eu énormément de syndicats, d'organisations qui ont signé le communiqué, etc. Donc ça, c'était vraiment cool. La réaction a été directe.
Il faut continuer à se mobiliser et il ne faut rien lâcher. Et il faut se mobiliser pas qu'en réaction à des événements, mais avant des événements et même en réaction à tout le climat global qu'on voit depuis 5 ans et même plus. Enfin, c'est des actions qui doivent s'inscrire dans le temps et on doit tous, à notre niveau, prendre conscience de ça, quoi.
Ce rassemblement montre la colère des étudiants et qu'ils ne se laisseront pas faire.
L'université bordelaise, ce sont des actes de terreur. L'extrême droite, depuis 2021, signe son grand retour sur Bordeaux. D'abord par des tags, des actes de vandalisme, la serrure de notre local qui, l'année dernière, a été burinée à coups de tournevis. Ensuite, il y a l'organisation. La création d'un club de boxe en début d'été. La Bastide bordelaise, qui s'est faite remarquer en jetant des pierres sur le cortège de la Pride en juin, la ratonnade à Saint-Michel, et maintenant des actions violentes à l'encontre de toute opposition. Une seule solution existe, l'unité des mouvements, organisations et syndicats, ainsi que l'action commune de tous ces acteurs pour faire de notre université la maison commune de toutes les étudiantes et de tous les étudiants. Engageons-nous, engagez-vous, car nous n'avons pas peur. Ce combat à l'UNEF, nous l'avons depuis 1907, dans la peau. Nous sommes conscientes et conscients que l'extrême droite se nourrit des crises et des malheurs. C'est la question de survie d'un capitalisme aux abois et poussé à son paroxysme. Merci à toutes et à tous.
Et donc, nous rappelons, c'était le 9 décembre à la fac de Bordeaux-Montaigne sur l'esplanade où les étudiants se sont mobilisés donc pour lutter contre les violences de l'extrême droite et rappeler que c'est intolérable. On remercie Garance pour la réalisation de ce reportage. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant, on va se quitter en musique avec Get Off Your Mind de Wask. Wask, groupe bordelais qui a sorti un EP au mois d'octobre, Furtado. Je vous conseille de l'écouter, c'est super sympa, une ambiance un peu funk, jeune. Voilà, c'est des étudiants dans divers domaines qui sont rassemblés entre potes pour créer ce projet. Donc je vous invite à l'écouter. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Like a butterfly. wish I could fly to see the clouds crying.